Bonsoir à vous, une saison au théâtre avec ce soir Peter Stein. Ce soir, nous recevons un immense metteur en scène de théâtre et d'opéra dont le nom est aussi celui d'un bâtisseur, directeur de la Schaubühne à Berlin de 1970 à 1987. Peter Stein a quitté l'Allemagne pour l'Italie où, pas très loin de sa maison, il a fait construire une salle de répétition, dit-on, aussi grande que la prestigieuse institution berlinoise. Son tempérament, il faut le dire, le porte au-devant des défis, comme par exemple lorsqu'il monte en 2000 l'intégrale du Faust de Goethe, soit près de 23 heures de représentation. Sur la liste des auteurs qu'il a créés, on note Tchekhov, Schiller, Sophocle, Eschyle, et puis Brecht aussi, bien sûr, au tout début. Comment en effet passer à côté de Brecht lorsqu'on est un metteur en scène né en Allemagne en 1937, rencontre avec un artiste entier qui s'attaque aujourd'hui à Samuel Beckett et qui déclare que sa religion, c'est l'art. Peter Stein est au micro d'une saison au théâtre jusqu'à 21h.
Peter Stein, j'ai eu la chance de travailler avec lui quand il a monté le prix Martin à l'Odéon. Pour moi, c'est l'un des plus grands metteurs en scène que j'ai rencontré. Parce que c'est quelqu'un qui accompagne l'acteur sur le plateau avec une extrême finesse et une extrême connaissance de la dramaturgie qu'il veut faire, de la mise en scène qu'il a l'intention de donner. C'est quelqu'un qui ne fait jamais de tort à l'acteur, c'est-à-dire qu'on est comme des élèves avec lui, on a l'impression qu'on reprend le travail de base qui a peut-être manqué quelquefois à certains d'entre nous, et lui, il va pallier toutes les insuffisances et il va faire en sorte qu'on puisse atteindre le sommet de l'art de l'acteur dans nos retranchements quelquefois les plus incroyables qu'on peut prendre. Voilà, pour moi, il y a eu un avant Peter Stein et il y a eu un après Peter Stein. Bonsoir Peter Stein.
Bonsoir.
Alors, vous étiez il y a peu sur France Culture pour parler de Tchekhov. Ce soir, nous allons parler surtout de Samuel Beckett, dont vous mettez en scène à partir du 19 avril au Théâtre de l'Œuvre La Dernière Bande, avec sur les planches le comédien Jacques Weber. Mais avant cela, on va se retourner rapidement sur Eugène Labiche, puisqu'on vient d'entendre au téléphone l'un des acteurs que vous avez dirigé à l'Odéon, dans le prix Martin, qui s'était joué là-bas. C'est l'acteur Laurent Stocker de la Comédie Française, qui vient de livrer à l'instant son regard sur le metteur en scène que vous êtes, et il termine par une phrase qui est des plus définitives. Il dit « Il y a un avant, pour moi en tout cas, et un après Peter Stein ». C'est une sacrée responsabilité. Vous faites toujours cet effet-là aux acteurs, Peter Stein ?
Il faut demander les acteurs, et pour moi.
On va appeler Jacques Weber, alors, pour lui poser la question.
Oui, et je crois que Laurent il avait toujours la tendance vers un peu un style de la mise en scène et de travail théâtral allemand et russe. Il était toujours intéressé dans ça. Peut-être à cause de ça, on avait une belle consonance, une belle lettre d'être travaillé ensemble. Et il ne faut pas généraliser ces choses.
En même temps, quand il dit, et c'est une phrase assez intrigante, parce qu'elle suppose que l'inverse peut être vrai aussi, quand il dit « il ne fait jamais de tort aux acteurs », qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Peut-être il veut dire que j'ai profondément convaincu qu'un metteur en scène doit aimer les acteurs. Il doit avoir ce regard de bas vers haut. L'acteur est sur le plateau, ça veut dire en haut, et tu es comme un metteur en scène en bas. Cette manière de regarder c'est un regard plein d'amour pour l'acteur dans son métier, pas comme personne. Et je crois que c'est la base pour un bon metteur en scène. Je crois que c'est pas nécessairement la conception, la création, toutes ces choses-là. Le premier moment de rencontre est exactement cette humilité de l'acteur vers
du metteur en scène
vers l'acteur. Exactement ça. Et je crois, il fait référence à ça et je dois dire, c'est exactement que je sens si je rencontre des acteurs sur le plateau, dans le travail, pas dehors du théâtre.
Comment êtes-vous, alors pour le coup, entré en contact avec ce comédien assez exceptionnel qu'est Jacques Weber, que pour le coup vous avez re-sollicité pour jouer ce texte de Samuel Beckett, Peter Stein?
Ah non, ça commençait avant.
Je sais, c'est le Prix Martin.
Parce qu'on a fait le casting pour le
pour
Prix
la
Martin, pour la biche à l'Odéon. Et on m'a proposé Jacques Weber, je ne connais pas. Et dès le premier moment du rencontre, j'avais un acteur en front de moi, avec une profession très élaborée. Il travaille déjà pour 40 ans, peut-être même 50 ans. Un acteur roué, rusé, qui s'est présenté vers moi avec une humilité incroyable. Il a dit immédiatement, je veux absolument faire ça. Je suis prêt de mettre moi-même en discussion. Je veux totalement m'ouvrir vers tes propositions dans ce style de travail et j'espère que je peux, dans un certain sens, recommencer avec les métiers que nous deux aimons beaucoup. Et c'était pour moi extraordinaire. Et j'étais dans un certain sens aussi, disons, un peu non choqué, mais un peu... Je pensais, c'est incroyable, c'est un homme comme ça fait ça. Et ça, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une autre filage, c'est resté exactement comme ça. Il est une tentative de recommencer toujours de zéro, qui est clairement la base pour un bon résultat dans notre travail.
En 2005, vous répondiez aux questions de Brigitte Salino pour le journal Le Monde, Peter Stein, et vous lui disiez que c'était les acteurs qui avaient été pour vous des maîtres, beaucoup plus que les metteurs en scène, et que c'est en allant les voir jouer que vous aviez appris le théâtre.
Exact, parce que quand j'ai commencé de m'intéresser pour le théâtre, c'était exclusivement avec le moyen d'aller de voir des spectacles, pas seulement en Allemagne, mais aussi en France, en Italie. Et en Angleterre, c'était mon université, exactement ça. Et c'était toujours là de l'acteur. J'ai pas vu, grâce à Dieu, le metteur en scène. Mais je dois dire qu'il y a petites exceptions. Il y a des exceptions que j'ai appris assez de choses de Peter Brook et de Roger Planchon. Bizarrement, Roger Planchon est devenu, après ça, un grand admirateur, comme il a dit, de mon travail, bizarrement, parce que j'ai toujours pensé qu'un de mes maîtres, quand il était très jeune, il a fait par exemple les Trois Mousquetaires, qui a fait la tournée en Europe. Et je l'ai vu ça en Munich dans les années 50. Et c'était pour moi une révélation. Mais, en général, spécialement quand j'ai commencé de me dédier totalement au théâtre, hein, c'était les grands acteurs comme Thérèse Aiguise, comme Fritz Kortner, les grands vieux acteurs.
Fritz Kortner qui a été très très important pour vous.
Oui,
hein,
exact. C'était pour moi le moment où j'ai compris qu'est-ce qu'on peut faire dans ce métier-là. Les metteurs en scène, ils font des projets, ils mettent tout ensemble. Mais le central, l'élément central, c'est l'acteur. C'était pour moi indispensable et... Je suis très reconnaissante que tous ces acteurs ont aussi travaillé avec moi.
Je suis étonnée que vous ne citiez pas Giorgio Strehler, Peter Stein, parce que vous avez travaillé avec lui. Et
non, je n'ai pas jamais travaillé avec lui.
Vous n'avez pas été le voir travailler en Italie?
Non, erreur
de ma part alors. Alors je confonds, c'est parce que Jacques Weber m'a raconté comment il avait appris qu'il allait jouer avec vous le Prix Martin d'Eugène Labiche. Et il était fou de joie parce que, me racontait-il, quand il était plus jeune, pour lui, il y avait le Nord et le Sud. Il y avait au Nord Peter Stein et au Sud Giorgio Strehler. Et ajoutait-il, lors de cette conversation qu'on a eue il y a à peu près un an, toute la mise en scène de l'époque, les Patrice Chéreau, justement, les Roger Planchon, étaient sous influence et de Stein et de Strehler.
Alors, c'est clair aussi. Je me souviens, je suis toujours allé à Munich où j'ai fait mes études vers Milano, que c'est pas très loin, très loin. Et comme ça, j'ai vu des spectacles de Strehler, spécialement dans les années premières années des 60,
qu'il
était très 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 important. Mais j'ai jamais travaillé avec lui. La rencontre personnelle était un désastre total parce que George parle exclusivement. J'ai pas pour une heure, j'ai pas dit un seul mot. il m'a engueulé, des choses comme ça. Alors, il était comme ça.
Alors Beckett, il faut qu'on y arrive, parce que vous-même vous y arrivez, Peter Stein, alors que jusqu'à présent, encore une fois sauf erreur de ma part, jamais vous ne vous étiez approché de Beckett. Je vous regarde avec un peu de crainte, vous
non,
n'aviez
non,
jamais monté Beckett.
C'est étonnant. Il y a une raison pour ça.
Ah ben justement, c'est vous m'enlevez la question de la bouche. Pourquoi?
Parce que quand j'étais par exemple à la Schaubühne, c'était un théâtre collectif. Alors j'avais un ensemble de 18-20 acteurs et on a fait deux choses au maximum par l'année. C'est clair, tout le monde voulait travailler. Alors je ne peux pas faire la dernière bande. Où c'est moi un seul acteur travaille, même pas Endgame, fin de partie, parce que ce sont quatre au maximum. Non, pour ça, on a fait toujours des projets où il y a beaucoup des acteurs dedans. Alors, par exemple, Tchekhov est très, très productif parce que la distribution est quasiment démocratique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup des rôles qui ont une importance quasiment égale. Et comme ça, c'était jamais possible. Mais quand j'étais jeune, j'ai commencé de lire Murphy et le travail en prose de Beckett. Mais sur l'autre côté, il y a un élément dans Beckett qui est difficile pour moi. Ça veut dire la réduction. En théorie, c'est très bien, très juste. Il faut réduire, comme aussi Tchekhov, et essayer de réduire tout sur l'eau, sur les choses nécessaires. Mais théâtre a aussi cet élément de expansif, ça veut dire de jouer avec chaque chose, d'un certain impérialisme de thèmes. Et comme ça, vous avez déjà dit, j'ai fait aussi des choses durant 22-23 heures. Mmh. Alors cet élément, j'aime aussi beaucoup dans le théâtre, et pas seulement la réduction, même si totalement juste comme principe. Mais chez lui, chez Beckett, à la fin, reste seulement la bouche. Et pour moi, alors, je veux aimer un acteur dans sa totalité, et pas seulement sa bouche.
En 2005, toujours dans cette même interview accordée au journal Le Monde, vous disiez, Peter Stein, je déteste les monologues.
Oui.
Alors, là, vous nous dites, je ne l'ai pas monté à la Schaubühne, mais la Schaubühne, vous l'avez quitté en 87, donc vous auriez pu le monter depuis Beckett, c'était possible. Vous avez quand même encore attendu 30 ans avant d'y arriver. Aujourd'hui, donc, vous montez cette pièce qui est un monologue, mais peut-être que vous ne la considérez pas comme un monologue.
Non, pas du tout.
On rappelle rapidement pour les auditeurs, l'histoire est celle du vieux Krapp, l'acteur, qui s'écoute lui-même sur une bande magnétique. Je schématise très très rapidement, mais il est tout seul en scène.
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est un monologue pour vous, cette pièce?
Non, c'est pas du tout un monologue.
Oui.
C'est le truc de Samuel Beckett. Un acteur sur le plateau parle avec soi-même, avec sa voix. Qu'elle a pris, elle a mis sur une bande de magnétophone il y a 30 ans. Mais seulement pas ça. Il y a aussi cet homme, l'homme sur le plateau à 69. Dans les années 50, ça veut dire aujourd'hui 80, 85.
Oh.
Oui. Et lui écoute à une bande qui lui a produit il y a 30 ans avant. Ça veut dire ce mec avait 39. Mais sur cette bande, cet homme de 39 ans raconte qu'il a écouté une autre bande de lui-même quand il avait 27 ans. Et comme ça, il y a trois personnes qui sont sur le plateau dans un certain sens. Et c'est vraiment génial à calculer. Même, il faut dire que Beckett était forcé d'écrire sur le texte au commencement dans un avenir pas très précis. Pourquoi? Ben, si on met ensemble 30 ans de bande et aussi encore une fois 12 ans en arrière, ce sont tous ensemble 42 ans. Mais si la pièce était écrite en 58, ça veut dire si on fait la détraction de 42 ans, on arrive à une date réelle où il n'y avait pas un magnétophone. C'était pas inventé dans ces temps-là. Pour ça, il était forcé d'écrire dans un futur pas très précis.
Ah, vous me livrez une clé. Vous me livrez une clé, Peter Stein. J'avais pas du tout fait cette opération de soustraction qui est d'une logique absolument imparable. Beckett, c'est un auteur qui, pour tout metteur en scène français, est difficilement contournable. Alors, Patrice Chéreau, que vous connaissiez, que vous estimiez, ne l'a pas mis en scène. Luc Bondy, je crois, ne l'a jamais mis en scène. Ce qu'il monte, ce qu'il met en scène, parle ou de son humour, qu'il faut absolument faire apparaître, ou de ce soi-disant caractère absurde qui serait totalement inopérant le concernant, ou de son désespoir. Vous, vous optez pour lequel de ces pôles? L'humour, le désespoir, l'absurde, Peter Stein?
Pour moi, la première chose, la première raison de le proposer, parce que c'était moi qui l'ai proposé, ça veut dire je n'étais pas invité de le faire. C'était moi que j'ai proposé à Frédéric Franck, qui s'est vu intéressé de faire ça avec Jacques Weber. Et c'était pour travailler encore une fois avec Jacques. La deuxième motivation était que je voulais être un mois à Paris, parce que j'aime beaucoup Paris. Et je me sens très bien
et au
ici.
Printemps.
Oui, le printemps un peu difficile parce qu'il tombe beaucoup de l'eau.
Oh non, je vous assure que non.
C'est clair qu'avec sa possibilité, j'ai trouvé la possibilité de faire l'analyse de cette pièce qui est très difficile et pour un acteur très difficile à comprendre. S'il lit ce texte, il ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en vérité, ce texte est construit comme une formule mathématique très précise de chaque élément et a un sens parfois totalement pas à comprendre pour le public, mais quand même il y a dedans. Et si on respecte cette construction, divers leitmotifs qui sont arrivent à travers toute cette pièce, ça devient une chose très très intéressante. Aussi, il y a différentes versions. Beckett a fait la mise en scène très souvent de cette pièce-là. Je crois 3 fois. Un à Londres, un à Paris et un à Berlin. La première à Berlin. Et il a, dans ses mises en scène, il a essayé de réprimer un élément qui était au commencement dans la pièce. Ça veut dire l'élément du clown. On voit un clown qui fait des bizarres, une pantomime qui est presque un quart d'heure, qui fait une clownerie avec des bananes, des choses très, très bizarres, et c'est difficile de comprendre, mais c'est aussi très comique. Mais pas à pas, ça change. Pas à pas, il devient clair que ce clown, ce vieux clown, en réalité, est un écrivain totalement naufragato, ça veut dire totalement en échec. Et lui, avec ses 69 ans, commence plutôt pour produire sa dernière bande, ça veut dire qu'il veut mourir. Il veut mourir. Il faut se comprendre ça. Pour ne pas continuer. Et durant cette session de la dernière bande, il écoute une bande d'il y a 30 ans et systématiquement, il détruit toutes les illusions, toutes les espérances qu'il avait avec une force rigide, brutale, qui est vraiment paradigmatique dans un certain sens. Et c'est la chose intéressante. Et cette clown devient une représentant de notre problème de l'âge. Et c'est le thème. Et ça, il faut expliquer à l'acteur. Et Jacques l'a maintenant compris, il fait dans ce sens-là des miracles. Il faut le voir, c'est vraiment intéressant.
Mais on va aller le voir, Peter Stein, ça c'est certain. Est-ce que cette pièce de Beckett, vous la mettriez en relation, telle que vous êtes en train d'en parler, au fond sur son issue tragique, avec toutes ces tragédies que vous avez pu monter, et notamment Eschyle, dont vous avez dit qu'il était au fondement du théâtre européen et qu'il était aussi le trésor de la philosophie de la pensée.
Et absolument, parce que
Est-ce que Beckett est contenu dans Échine pour vous, Peter vous, Stein
yeah,
vous,
peut-être c'est mieux de faire une citation, bah de, pas d'Échille, mais de Sophocle.
Sophocle.
Et lui, dans sa pièce Édipe Colonne, le chœur chante un Stasimon et il dit que l'homme le plus heureux c'est lui qui n'est jamais né. C'est une formulation contradictoire, absurde dans un certain sens. Et mal, il continue le chœur disant le deuxième heureux, c'est l'homme qui, si est né, retourne immédiatement d'où il est venu. Ça veut dire que c'est une paradoxe, une formule paradoxe qui était écrite bah, précisément la condition de la race humaine. Ça veut dire on est né pour mourir. Et c'est, si on vraiment comprend ça et on continue de vivre, alors c'est une autre chose, c'est quasiment une acte héroïque de continuer. Si c'est mais vraiment dans la tête que tu, en vérité, tu as seulement tout petit temps de vivre et même c'est peut-être inutile toutes choses là. C'est exactement ça que tous les hommes de théâtre, tous les auteurs du théâtre ont recherché de reproduire. Tchekhov fait la même chose et aussi Beckett, exactement. Dans une manière presque littéralement, il parle de ces choses-là avec une langue beaucoup moins élevée. Beaucoup moins choral quand Crap dit sur le plateau « Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui un an ?» C'est vraiment la merde remâchée et le bouchon au cul. Et ça veut dire exactement ça. Et c'est pas comme ça que je suis un homme totalement triste. Mmh. Même, je m'approche.
Rassurez-nous, Peter Stein, c'est pas un geste testamentaire que vous êtes en train de faire en mettant en scène cette pièce de Beckett.
Pourquoi
c'est pas votre dernière mise en scène, parce que on pourrait le penser en vous écoutant parler. C'est pas
oui,
ça.
Oui, c'est possible, parce que j'ai pas beaucoup de offres de faire du théâtre. Mmh. J'ai beaucoup des offres de faire l'opéra, mais c'est un autre thème. Non, c'est clair que si tu as un acteur qui est dans, disons, sur l'autre côté de 70, et tu es un homme de 78 comme moi, et même 19, là, cette année. Alors, ça aide de comprendre cette pièce et de prendre au sérieux, le mettre sur la propre peau. Et peut-être c'est pas si mal, mais sur l'autre côté, c'est un jeu. Et c'est clair, on fait le théâtre pour vaincre la mort, c'est clair.
Mais en même temps, Peter Stein, quand on met une pièce telle que la dernière bande en scène et qu'on la met avec ce que vous avez visiblement de très très précis et très construit dans votre tête par rapport à elle, on aborde d'une certaine façon une sorte de quintessence de la lutte avec la mort, elle-même en lutte avec la vie, ou plutôt la vie en lutte avec la mort. Et dans cette quintessence beckettienne, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas aussi une forme de jouissance.
Absolument. Aussi de comique.
Et de comique. Bah, donc le voilà, le comique.
C'est toujours comme ça. C'est le tragique a toujours tiré avec soi-même la comédie. Par exemple, une pièce comme l'Orestie, que j'ai fait plusieurs fois, il y a un élément dans la dernière pièce, dans les Euménides, il y a une pièce d'une pure comédie. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas être trop longtemps triste, c'est pas possible. Aussi, les vieux, les tragiques, on écrit toujours un jeu satirique, non? Le quatrième élément de la trilogie était toujours à la fin un jeu satirique. C'est clair. Il faut échapper de cette situation absurde et paradoxale avec un rire. C'est clair. Mais ça fonctionne seulement si on a avant ça éliminer tous les mensonges, toutes les illusions, de se faire des choses faciles. Et dans ce moment-là, le comique est vraiment une libération.
Vous aviez dit d'ailleurs, je me demande si c'était au sujet d'une tragédie ou pas, lorsque Patrice Chéreau est mort, vous êtes venu participer à l'hommage qui lui était rendu à l'Odéon, Peter Stein. Et vous aviez fait un très bel aveu, vous avez démarré cette émission en parlant d'humilité. Vous aviez dit que c'est en voyant Patrice Chéreau mettre en scène intégralement une pièce que vous-même vous aviez mise en scène, lui il n'avait pas touché un mot du texte, et vous aviez, quelques années auparavant, coupé un passage dont vous ne voyez absolument pas à l'époque quoi faire. Et qu'après avoir vu la mise en scène de Chéreau, qui lui était allé au front avec ce passage, vous vous étiez juré de ne plus jamais toucher à un texte.
Oui, c'était une rencontre spéciale avec lui. Pour ça, je l'ai raconté parce que c'est une chose personnelle, même si c'était très très tôt. C'était tout ça dans les années 70. Et comme ça, j'ai commencé de respecter beaucoup, beaucoup plus sérieusement la pièce d'art et ne plus continuer de le mettre à mon propre, dans mon propre sentiment, mais d'adapter mon sentiment vers la pièce. Parce que c'est beaucoup plus intéressant, même si un peu plus difficile. C'est beaucoup plus facile de le tirer dans tes bassesses, de tes petites préoccupations que tu es aujourd'hui, dans nos temps si superficiels.
Mais en même temps, c'est difficile de faire l'impasse de ce qu'on vit intérieurement, de ce par quoi on peut passer, de se détacher de soi-même. Pour totalement se dédier à une écriture.
Bah, Peter Stein,
on peut peut-être pas toujours le faire.
Il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il reste toujours ta propre personnalité. Il reste. Tu es un homme de 21e siècle.
21e siècle.
Oui. Alors tu es quelqu'un qui a des jambes déformées parce qu'il fait dans l'automobile et des yeux qui sont légèrement en la forme d'un téléviseur. C'est clair, mais la chose intéressante est de chercher de respecter les éléments et la forme artistique et aussi spirituelle de ces grandes pièces d'art. Mais si on veut pas faire autre chose, pourquoi on écrit son propre texte ou on utilise un texte qui est écrit aujourd'hui, que je fais beaucoup, non? Alors c'est pas vrai que j'ai metteur en scène seulement des classiques. La moitié des pièces que j'ai faites sont du XXe siècle. Ça veut dire, il faut dire que Tchekhov, les Trois Sœurs et aussi le Cerisé, ce sont des pièces du XXe siècle.
Et on n'a pas parlé de Genet et on n'a pas parlé de Coltès. Mais j'aimerais bien, juste avant qu'on se sépare, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Peter Stein, que vous nous disiez... Quelle est la prochaine pièce que vous aimeriez mettre en scène en France? Je suis sûre que vous y avez pensé.
Il faut demander moi, parce que je peux travailler ici seulement si m'en invite. Et j'ai pas d'invitation.
Mais moi, je vous invite, moi.
Oui, très bien. Ah, donc, alors, vous, où,
si moi, je vous invite,
où est votre budget? Où est votre espace?
On en parlera dans une prochaine émission.
Ah, je prends. Très bien, très bien. Non, j'aimerais beaucoup. Par exemple, j'aimerais faire cette chose très difficile de la classique français. J'aimerais faire une Bérénice. Aussi parce que je me souviens de mon ami Klaus
Gruber.
Michael Gruber, qui a fait une Bérénice à la Comédie française, qui était extraordinaire. Et j'aimerais beaucoup, de 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, de répéter de ce chose-là, la rencontre d'une culture allemande, du théâtre, avec cette pièce-là. Avec des Français, ça me plairait beaucoup.
Éric Ruff, si vous entendez ce message, sachez-le, Peter Stein aimerait mettre en scène Bérénice. Merci beaucoup Peter Stein de passer nous voir dans une saison au théâtre. Je rappelle que la dernière bande de Samuel Beckett, avec ce prodigieux acteur qu'est Jacques Weber, dans votre mise en scène, se joue au Théâtre de l'Œuvre à partir du 19 avril. C'est... Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Marie Dalquier, Lise Leu, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue et vous souhaite une excellente soirée. Sospiro cemo, senza voler, palpito tremo, senza sapere.